Exceptionnellement, nous n'allons pas déambuler dans l'une des dernières expositions que j'ai beaucoup aimées. Nous voyagerons vers une destination lointaine et en même temps très proche de nous, inaccessible et en même temps omniprésente. Partons flâner en Ukraine, au siècle passé. Suivons les pas d'une figure majeure de l'art naïf mondial, la peintre Maria Primatchenko. En 1908, Maria Primatchenko naît dans le village de Bolotnia, à 80 km de Kiev, 30 km de Tchernobyl. En 1908, 85% de la population ukrainienne vit dans les campagnes. Maria Primatchenko vit également à la campagne. Elle est fille de charpentier. Il aimait à sculpter le bois, il était virtuose en la matière. Il produisait notamment des clôtures de jardin en dessinant d'anciennes images slaves. Maria Primatchenko est fille et petite-fille de brodeuses émérites. Dans la tradition slave du travail de l'aiguille, la broderie à la part belle. C'est une pratique noble où se mêlent traditions païennes et christianisme. Les fleurs s'y transforment en soleil, les oiseaux deviennent des messagers de paix. Depuis l'âge de bronze jusqu'à nos jours, les mêmes symboles se trament dans une créativité éternellement renouvelée. En Ukraine, la culture, l'artisanat et les arts se transmettent de génération en génération. Enfant, Maria Primatchenko attrape la poliomyélite. Elle devra subir de nombreuses opérations tout au long de sa vie. Mais, loin de la pousser à se retirer du monde, cette maladie semble jouer pour elle un rôle de catalyseur. Sa créativité, son sens de l'écoute et de l'observation semblent exacerbés. Elle regarde sa maison, son village, la vie animale. Elle semble vouer un culte à la nature. Elle en vient à créer un monde universel, un monde panthéiste, son monde. Enfant, elle dessine des fleurs sur le sable mouillé avec un bâton. Enfant, elle décore avec des pigments naturels, avec de l'argile gris-bleu, les murs de la maison familiale, mais aussi celle de ses voisins. Maria Primatchenko a les pieds plantés dans sa terre natale, dans ce pays plat, dans ce pays de steppe. Elle y séjourne l'essentiel de son existence. Je vous propose d'écouter quelques vers de la poète et écrivaine Lina Kostenko pour nous plonger, nous aussi, dans cet univers. Lina Kostenko est née le 19 mars 1930 dans la région de Kiev. Grande personnalité de la littérature ukrainienne, ses œuvres sont traduites en anglais, biélorusse, estonien, italien, allemand, slovaque et français. Écoutons donc le poème de Lina Kostenko et plongeons dans l'univers de ces deux artistes. Plongeons en Ukraine. Steppe, steppe verte, ni arbre ni champ, steppe azur, ni nuage ni pigeon. Un soleil rouge, lingot encore brûlant, vogue avec lenteur entre elles. Et toi, derrière lui, jusqu'au soir vagabonde, es-tu là? Plonge, renversée dans l'herbe. Puis écoute, écoute, jusqu'à n'en plus pouvoir, les fleurs de steppe qui si doucement respirent. Revenons à Maria Primatchenko. Le dessin, la peinture sont le fil conducteur de sa vie. Il ne s'interrompra que pour une période très brève, pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce jusqu'à la fin des années 40. La Seconde Guerre mondiale. La Weimar met 80 jours pour prendre la ville de Kiev. L'époux de Maria Primatchenko ne revient pas de la guerre. Il meurt sans connaître leur fils Fiodor. elle ne retrouvera jamais sa tombe. Sujet qui revient fréquemment dans son travail. Le frère de Maria Primatchenko est exécuté par les nazis. En 1943, les soviétiques reprennent la ville de Kiev, réduite à un amas de ruines. Si la nature a été une mère tendre et aimante pour l'Ukrainien, son histoire, elle, s'est montrée une marâtre, écrit Alexandra Efimenko dans L'histoire de l'Ukraine, publié en 1966. Maria Primatchenko retourne donc vivre à la campagne, dans son village, à Bolotnia. Elle y restera jusqu'à la fin de sa vie. Maria Primatchenko reprend la broderie dans un premier temps et à la fin des années 40, la peinture. Elle crée un monde. Elle crée son monde. Son corpus d'œuvres est énorme. Elle participe à plus de 90 expositions. Montréal, Prague, Varsovie, Paris, Sofia. Nombreux sont ses travaux réunis au Musée national ukrainien des arts décoratifs populaires à Kiev. 25 de ses œuvres étaient également réunies dans le musée Ivankiv. Ce musée brûle le 27 février 2022. Toutes les œuvres de Maria Primatchenko qui s'y trouvaient ont-elles péri? Ont-elles été toutes réduites en cendres? Une partie d'entre elles aurait peut-être été sauvée par des riverains. Maria Primatchenko est désormais célébrée comme symbole du patrimoine ukrainien menacé, comme colombe en temps de guerre. Mais laissons là l'actualité et plongeons dans son monde. Son monde, un monde où se joue le miracle de l'invention et de la couleur. Un monde qui allie la vie, le fantastique, le subconscient. Un monde où laideur et beauté peuvent se côtoyer. Un monde de tradition et modernité. Un monde parfois heureux, parfois mystérieux, parfois dangereux. Un monde chargé d'émotions. Son monde. L'œuvre de Maria Primatchenko est avant tout une explosion de couleurs. Souvent des couleurs vives, fraîches, chatoyantes, lumineuses. Maria Primatchenko est aujourd'hui l'une des représentantes majeures de l'art naïf ukrainien, l'une des représentantes majeures de l'art naïf mondial. Cela ne s'est pas fait en un jour. Il n'en reste pas moins qu'une rencontre fut décisive en 1936. En cette année 1936, le talent et la créativité de Maria Primatchenko en tant que brodeuse est découvert par l'artiste Tatiana Flora. Celle-ci l'invite à un atelier expérimental mené par le musée d'art contemporain de Kiev. Maria quitte son village et déménage. Elle participe avec succès à l'exposition The All Ukrainian Exhibition of Folk Art. Elle peint pour la première fois ses animaux domestiques et ses oiseaux. Elle reçoit le titre honorifique de Master of Folk Art avec sa série Les animaux du marais. L'année suivante, en 1937, ses œuvres sont montrées à l'exposition universelle de Paris. Elle y reçoit la médaille d'or pour y avoir conquis le monde de l'art avec ses peintures. Son style très personnel force l'admiration de Chagall. Il s'en inspire. Certains de ses animaux sont cousins de ceux de Maria Primatchenko. Son style très personnel conduit Picasso à dire « Je m'incline devant le miracle artistique de cette brillante ukrainienne. » Elle éblouit le public par sa vision hautement positive du monde. Quel est le contexte dans lequel Maria Primatchenko développe son art? En 1936, nous sommes quelques années après l'Holodomor, l'extermination par la faim de l'Ukraine, mise en place par Staline en 1932-1933, un génocide qui fit 5 millions de morts. En 1936, nous sommes aussi deux ans après la formulation complète à Moscou du réalisme soviétique. Doctrine officielle qui exige de l'artiste, je cite, « une représentation véridique, historiquement concrète de la réalité dans son développement révolutionnaire ». En outre, l'artiste doit contribuer à la transformation idéologique et à l'éducation des travailleurs dans l'esprit du socialisme. Les développements des recherches artistiques et esthétiques d'avant-garde sont donc condamnés, détruites, les exécutions massives. Pourquoi Maria Primatchenko peut-elle continuer à peindre et à exposer? Elle produit un art qui pouvait alors être considéré comme de l'artisanat ou de l'art populaire décoratif. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles elle est épargnée. Son monde. Bête noire, 1936. Éléphant vert, 1936. Comment ne pas s'arrêter devant cet éléphant vert, goguenard, arborant sur sa tête une petite casquette bleue et portant sur son dos un oiseau au plumage chamarré. Lion a cassé un chêne, 1963. Thème qu'elle traitera à plusieurs reprises. Rat en voyage, mouette dans le bateau, le petit éléphant qui voulait devenir marin. Avec un long cou et en train de se gratter, 1977. Chat sauvage. Que la guerre nucléaire soit maudite, 1978. 61 cm sur 86 cm, un format paysage. Sur un fond noir, une bête féroce, figurée avec des couleurs éclatantes, oranges et fuchsias, se détache. La gueule grande ouverte, elle crache des serpents terrifiants d'un vert acide. Son ventre est difforme, il touche le sol, il est chargé de missiles nucléaires. Cette bête est-elle prête à les enfanter? 8 ans plus tard, le 26 avril 1986, c'est la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Elle traite également le sujet. L'écrivain contemporain Andrei Kourkov dit « Les Ukrainiens sont familiers du chaos ». Mais je poursuis. Deux perroquets partirent se promener ensemble au printemps 1980. Pendant que la bête boit le poison, le serpent suce son sang. Puissais-je donner ce pain ukrainien à tous dans ce vaste monde 1982 ? L'Ukraine grenier à blé. Taureau ukrainien, âgé de 3 ans, partit marcher dans la forêt et cueillir de la force. Mariage ukrainien. Je donne mes petites étoiles aux enfants, 1983. Taureau sauvage et corbeau sont amis, automne se promène à dos de cheval, cette bête bâille et ne veut pas avoir d'amis. Il ne s'agit pas là d'un poème surréaliste, bien que certaines des œuvres de Maria Primatchenko trahissent une proximité avec ce courant. Il ne s'agit pas non plus d'une liste d'illustrations d'un livre pour enfants, bien que Maria Primatchenko se soit livrée à cet exercice dans les années 80 avec le poète Mikhail Stelmach. Il s'agit en fait de la succession de quelques titres des œuvres de Maria Primatchenko. Pourquoi ai-je pris le temps de lire cette liste très partielle, mais tellement longue? Une liste si longue pour que l'on plonge dans son approche créative et son talent poétique qui s'exprime déjà dans ses titres. Titre qui oscille entre maxime morale, blague, titre de fable, contes ou chansons populaires. Le chien de l'enfer n'a pas peur d'un serpent. Une liste si longue pour que l'on prenne la mesure de l'ampleur de la production de cet artiste. Production abondante, pléthorique, fruit d'un travail acharné. D'un travail qu'elle a mené tout au long de sa vie, jour après jour, dès le lever du soleil, pendant plus de 50 ans. Une liste si longue pour se rendre compte de la diversité des sujets. Thèmes traditionnels, rituels, mythes, faits de société, illustrations de chansons ou de contes folkloriques. Thèmes animaliers qui donnent naissance à un fabuleux bestiaire, composé d'animaux domestiques, sauvages, mais aussi fantastiques. Un fabuleux bestiaire, une série unique dans la production artistique internationale. Thèmes de paix, d'indépendance, de résistance, son monde. Son art est singulier et pourtant elle dit n'utiliser aucune astuce professionnelle. Un peu d'aquarelle, mais surtout de la gouache. Un médium peu ou pas utilisé par les artistes émérites du XXe siècle. Plus épaisse que l'aquarelle, elle la préfère pour sa brillance, son aspect décoratif et surtout parce qu'elle permet de produire des contours graphiques, des traits juteux, des silhouettes d'une grande netteté, sans perspective ni volume. L'essentiel de son corpus de peinture est réalisé à la gouache sur du papier Wattman. Elle cerne la forme d'une ligne ample et souple. Elle y applique avec des pinceaux produits industriellement, avec une très grande adresse, ses couleurs intenses et vives. Nous pourrions même les qualifier de vivantes. Ses associations marquantes sont souvent surprenantes. Ses formats horizontaux très nombreux se prêtent à la description, à la narration. Ses formats verticaux plus rares ont peut-être une vocation plus décorative. Le dos de certaines de ses œuvres vaut également que l'on s'y attarde. Une exposition intitulée « L'invisible » eut lieu à Kiev l'année du centenaire de sa naissance, pour dévoiler la richesse de ses inscriptions. L'artiste y donne un éclairage de ses représentations. Un éclairage parfois trivial. Ainsi, pour le lion à casser un chêne, on y apprend qu'il l'a fait à dessein, afin de traverser un fleuve et de ne pas salir les pattes. Dans d'autres cas, il s'agit de poèmes, paraboles, dictons, désirs. Enfin, il n'est pas rare qu'elle y livre ses raisons sociales et politiques. Les signatures uniques de l'auteur apparaissent dans les années 70. Elles révèlent de profondes généralisations philosophiques et le sens sémantique de son œuvre. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter plus particulièrement des œuvres qui illustrent sa période de maturité, que certains historiens font débuter à la seconde moitié des années 1950. Les œuvres que nous allons évoquer se répondent. La première date de 1982 et s'intitule « Une colombe a déployé ses ailes et demande la paix ». 61 cm sur 86, un format paysage. Gouache et peinture fluorescente. Sur un aplat jaune vif et lumineux se déploie un bouquet de fleurs stylisées. Ce sont comme des tulipes oranges surmontées d'un arc denté, lui aussi orange. La couleur joue un rôle primordial dans les compositions de Maria Primatchenko. La couleur donne le ton, le rythme, l'humeur de l'œuvre. Ici, nous sommes dans une effervescence printanière. Ces fleurs sont reliées entre elles par un réseau de branches et de feuilles bien vertes. Elles évoquent les peintures murales traditionnelles. Elles évoquent une nature foisonnante, riche, généreuse. Un paradis lumineux. Un paradis fleuri qui réchauffe le monde. Au milieu de ce fond très présent, noyée dans cette exubérance florale, une colombe déploie ses ailes sur toute l'envergure du tableau. Son corps et sa tête sont représentés de profil, mais ses ailes sont de face dans un geste d'accueil, de bienveillance, de protection. Elle est blanche, cernée d'un contour tracé en bleu ciel, d'une main sûre. Cette colombe blanche, cernée de bleu ciel, est animée de petits motifs, bleus du même bleu. À l'extrémité de ses ailes, trois motifs géométriques, trois losanges imbriqués concentriques. Au milieu de ses ailes, les mêmes losanges imbriqués alternent avec des petites fleurs, réduites à deux feuilles et un bouton. Ce motif est cerné par des traits ondulants, des sortes de vaguelettes. Il évoque instantanément les motifs de broderie qui animent les manches de vêtements traditionnels. Le corps et la tête n'échappent pas à cette profusion de petits motifs bleus, fleurs, cercles concentriques, lignes ondulantes. Dans cette œuvre, la référence à la nature est évidente. La référence à l'imagerie pacifiste universelle est claire. La référence à l'art populaire ukrainien, au folklore, est indiscutable. Nous sommes plongés, immergés, presque asphyxiés dans cette profusion de motifs, dans l'art folklorique, dans cette culture à laquelle l'artiste est rattaché corps et âme. Cette œuvre est celle que les artistes californiens ont choisi de reproduire à très grande échelle à San Francisco lorsqu'ils ont appris l'incendie du musée Ivan Kiev. À ce stade, je voudrais évoquer un moment l'art populaire ukrainien, un art populaire qui atteint un niveau inégalé au XVIIIe siècle et qui s'exprime sur une multitude d'objets et de lieux. Aujourd'hui, nous nous arrêterons sur trois de ces expressions liées à trois supports différents. Nous avons déjà cité celui des peintures murales dans lequel Maria Primachenko excelle. Un art qui, à première vue, peut sembler principalement décoratif et qui l'est sans doute aujourd'hui. Mais qui, si l'on remonte dans le temps et dans la tradition, était imprégné de symbolisme et de connotations spirituelles. Un art qui, dans certains cas, racontait la vie ordinaire, mais aussi un art qui pouvait interagir avec le monde surnaturel. Un art central dans les rites et les fêtes traditionnelles, un art lié au sens du sacré. Sens du sacré. Ceci me conduit à dire quelques mots sur l'art des rouchniks. Ces tissus rituels, brodés de symboles et de pictogrammes, utilisés dans les cultures slaves orientales, lors des services religieux comme les mariages, les enterrements. Là encore, un art qui se transmet de génération en génération, un art où chaque région développe ses propres motifs, un art aujourd'hui conservé dans les musées en Ukraine, dans le musée Pereyalaf, par exemple, en Russie, au musée de l'Ermitage, un art dont un des motifs figure sur le drapeau de Biélorussie. Dans notre voyage, dans cet univers folklorique, je voudrais également évoquer l'art du pisanka, cet art traditionnel qui aujourd'hui embellit les fêtes de Pâques, celui des œufs décorés, un art omniprésent, comme en atteste la citation de l'écrivain Taras Shevchenko, de notre Ukraine, chaque village est pareil comme un œuf coloré. Il s'agit en fait d'un art qui remonte aux temps immémoriaux, bien avant l'arrivée du christianisme en 988. L'œuf symbolisait alors la substance germinale qui fait renaître la nature au printemps sous les rayons du soleil. L'œuf était également considéré comme un élément cosmogonique, symbolisant la fécondité. Et, le jour de l'équinoxe, on raconte que les populations des tribus slaves se rendait dans les bois pour fêter l'arrivée du printemps. Autour des chênes et des bouleaux, elle chantait des hymnes exaltant les forces créatrices. Elle dansait en ronde et roulait des œufs sur l'herbe. De cette coutume païenne dériverait la tradition de décorer les œufs avec des images d'arbres, auxquels furent ensuite ajoutés des motifs de méandres, de soleil, de croix. Il faut savoir que certains rites païens, anciens, pré-chrétiens, se sont maintenus jusqu'au début du XXe siècle. Malgré la lutte de l'Église, l'adoration des forces de la nature a continué secrètement. Des cérémonies nocturnes avaient lieu en l'honneur du soleil, personnifié par le dieu Yarilo. Même après la révolution russe de 1917, certains rites liés aux saisons se sont maintenus, comme le Vénianski, au printemps, les jeux d'été, à la Saint-Jean. Mais revenons à Maria Primatchenko, à son monde. En 1984, 2 ans après l'œuvre que nous avons évoquée précédemment, intitulée « Une colombe a déployé ses ailes et demande la paix », Maria Primatchenko peint une œuvre intitulée cette fois « Damnée soit la guerre, des bombes poussent à la place des fleurs ». Sur un fond jaune vif, également, se déploie cette fois un animal violet, dodu, planté sur 4 pattes griffues. Il sourit méchamment. Il est bien féroce avec ses dents blanches et aiguisées. Sa langue pointue, prédatrice, sort de sa bouche ouverte. Un insecte semble planté à son extrémité. Cet animal imaginaire est aussi très humain. Avec sa casquette posée sur sa tête, d'où s'échappent quelques cheveux raides et bruns. Son œil est rond, son regard globuleux. Les tulipes, de la représentation précédente, ont laissé place à des fleurs vertes qui sortent du sol. Elles sont comme des gouttes renversées plantées sur 2 paires de feuilles empilées. Toujours pas de perspective, toujours un grand schématisme. Mais nous sommes loin des motifs rassurants du folklore ukrainien que nous avions décrits pour la colombe. En effet, ces gouttes animent également le corps de l'animal. Elles sont orientées dans l'autre sens. Ceci nous permet de conforter notre intuition. Il s'agit en fait de bombes. Elles sont partout, elles sont au nombre de 19. Elles sont sur le corps de l'animal, sur ses pattes, au bout de sa queue, au bout de sa langue, et elles semblent pousser du sol. Dans la nature comme dans les contes, animaux et plantes interagissent. Damnée soit la guerre, des bombes poussent à la place des fleurs. Maria Primatchenko utilise les codes de l'art populaire, le contraste des couleurs, les motifs, la schématisation dans la représentation de cet animal qui a pu nous sembler drôle au premier regard. Mais ici, elle les détourne pour exprimer une idée forte, pour exprimer son point de vue politique, pour dénoncer l'atrocité de la guerre. Et 2 ans plus tard, en 1986, elle va encore plus loin dans sa remise en question de l'art traditionnel, me semble-t-il, avec l'œuvre intitulée « La menace de guerre ». Elle innove encore. Les couleurs lumineuses ont ici complètement disparu. Sur un format paysage, sur un fond violet, se découpe un être hybride, monstrueux, terrifiant. Il est figuré de profil, orienté vers la droite. L'être est à dominante brune, couleur terre. De toutes petites fleurs stylisées, résumées à 2 feuilles et un bouton, dans des tourons rose-orangé pâle, viennent rythmer sa surface. Sa forme générale est plutôt ovoïde. Il se présente comme un œuf allongé, avec la base à gauche du tableau et son sommet à droite. Il occupe toute la surface. Comme dans toutes ses œuvres, Maria Primatchenko allie ici peinture et graphisme. La surface de cet être effrayant est également ponctuée de motifs de feuilles, violettes, violettes comme le fond. Les nervures y sont dessinées schématiquement, en vert. La feuille centrale pointe vers la gauche, elle est cernée d'un aplat noir qui dessine une aile, dans une forme qui se hérisse de pointes dirigées vers l'arrière. En partie basse, de nombreuses petites pattes toutes fines, 8 pattes toutes courtes, se déploient et entrent en contact avec le bord du tableau. Au milieu de cette forme, un léger resserrement marque le cou de la bête. Sous le cou et sous la tête, le rythme donné par les pattes se poursuit par un motif de petites excroissances verticales, d'une taille très proche, qui ressemble un peu à des gros poils de barbe. La tête correspond donc à la partie la plus allongée de cette forme ovoïde. Elle s'ouvre pour laisser apparaître une dentition blanche, effrayante. 6 dents bien pointues figurent les mâchoires inférieures et supérieures qui laissent passer une langue d'un orange vif, acidulé. Cette langue, animée de points rouges, se déploie en arc de cercle vers le bas pour se terminer en pointe. Et un petit insecte, noir, semble piquer au milieu de cette langue râpeuse, hideuse. En partie haute, une crête majestueuse, souple, se déploie. Elle est constituée d'une alternance de lignes épaisses, noires et violettes, comme le fond. Elle participe à l'impression de mouvement de cet être qui semble prêt à avaler tout ce qu'il a devant lui. Son regard finit de nous convaincre de sa férocité. L'œil droit est représenté très schématiquement en noir et blanc. Il se détache sur un fond orange en forme d'amande, de mandorle, elle-même cernée de petits traits noirs rayonnants qui font penser à des cils. Dans l'œuvre que nous venons de décrire, les éléments organiques, feuilles et petites fleurs, jouent un rôle de second plan. Elles animent la surface mais ne donnent aucune lueur à ce démon qui semble personnifier le mal vorace et la violence insatiable. Cet être fantastique incarne ici une tragique réalité. Avec ces 3 œuvres, nous sommes plongés dans le monde de Maria Primatchenko, un monde binaire où s'opposent les forces du bien et du mal, un monde où les bons animaux ressemblent à des vrais animaux, lions, oiseaux, ours, singes, lièvres, cigognes, hirondelles. Même si Maria Primatchenko ne les a pas toujours vus de ses propres yeux. Tandis que les créatures maléfiques, démoniaques, les forces obscures et invisibles, sont souvent le fruit de son imagination. Dans les 2 cas, il peut y avoir personnification, grâce à des caractéristiques humaines, anthropomorphiques. Maria Primatchenko dit que parfois les images lui apparaissent dans les rêves et qu'elle les matérialise ensuite, dans ses compositions fantastiques. Si j'ai abordé aujourd'hui l'œuvre de Maria Primatchenko sous l'éclairage de la paix et de la guerre, n'oubliez pas la longue énumération des titres du début de notre déambulation. L'œuvre de Maria Primatchenko, même si elle aborde parfois des sujets terribles, est dans son ensemble une œuvre lumineuse, colorée, gaie. Elle cherche à apporter de l'émotion positive. Elle-même disait « J'aime peindre la façon dont les gens travaillent dans les champs, la façon dont les jeunes gens marchent comme un coquelicot qui fleurit. J'aime tous les êtres vivants. J'aime la forêt, les fleurs, la variété des oiseaux et des animaux de la forêt. Je les habille dans les vêtements folkloriques et ils sont si drôles avec moi. Ils dansent déjà. » Maria Primatchenko, malgré une souffrance physique insoutenable, a toujours eu le désir de vivre, la capacité d'être surprise, le désir de partager ses découvertes, la volonté de nous montrer la beauté qui existe en tout, la soif de créer avec une imagination débridée, la force de nous emmener dans un monde unique où se confrontent le bien et le mal, la beauté et la laideur, l'ombre et la lumière, son monde. Elle perpétue dans ses œuvres les traditions de l'art populaire ukrainien et crée un nouvel art en accord avec le temps. En 2011, M. Fialko, conseiller aux affaires étrangères, a fait remarquer que Maria Primatchenko a réussi à transformer une tradition culturelle ancestrale ukrainienne, inspirée de motifs floraux, animaliers ou géométriques, en création personnelle. Elle est, dit-il, un pont, une passerelle qui relie les anciennes traditions folkloriques et le présent. Son travail est original. Il est rempli du souffle de sa terre natale, réchauffé par la gentillesse et la sagesse de la poésie folklorique. Son œuvre est aussi le fruit de ses échanges avec les modernistes et les autres créateurs d'art populaire du premier plan. Son travail est aujourd'hui poursuivi par sa descendance. La tradition se transmet de génération en génération. Infatigable rêveuse, elle crée un monde où coexistent le fantastique, le quotidien, les fantaisies cosmiques, la satire sociale. Un monde de rêves où elle plante des potagers sur la lune, son monde. Maria Primatchenko est une humaniste avant tout. Je fais des fleurs ensoleillées parce que j'aime les gens. Je crée de la joie pour le bonheur des gens, pour que tous les gens s'aiment, pour qu'ils puissent vivre comme des fleurs partout sur terre. La tradition des arts décoratifs et des arts appliqués contribue au renouvellement de la mémoire spirituelle et historique et signe l'identité de toute la communauté.
Протяг бій кривавий від сяну до дону, в ріднім краю панувати не дамо нікому.
Les représentations de Maria Primatchenko sont aujourd'hui des icônes de la culture ukrainienne, d'une Ukraine qui a toujours aspiré à être libre, comme l'écrivait déjà Voltaire.
Ce podcast est la trace orale de notre déambulation du mois d'avril 2022 avec l'association Un regard pour toi qui soutient les déficients visuels. Pour accompagner notre plongée dans le monde de Maria Primatchenko, j'ai choisi des musiques ukrainiennes. La première, de Monsieur Vavaka, associe flûte, violon, harpes et cordes et s'inspire d'une mélodie du compositeur ukrainien Vassili Paskevitch. La seconde n'est autre que l'hymne national intitulé « L'Ukraine n'est pas encore morte ».
Свободу і покажем, що ми браття козацького роду.